Eh bien, Dieu a créé les purs esprits tout au début. Dieu est dans son éternité, donc il a tout le temps pour créer. Il n'y a personne pour lui dire c'est quand que ça commence. À un moment donné, il a créé. Et qu'est-ce qu'il a créé d'abord? Il a créé des anges, avant la matière. Alors, vous allez me dire, vu qu'ils n'ont pas de corps, ça ne voyait pas beaucoup. Oui. Mais c'est l'obscurité. L'obscurité est une notion par rapport à la matière et à la lumière. Alors donc les anges, ils vivaient comment? Ben, ils vivaient comme des êtres intelligents. Dieu, lui, dans son éternité, il vit dans la lumière de son intelligence et de son amour. Et ces anges n'étaient pas dans le noir, parce qu'il n'y avait pas de matière. Mais ils étaient dans leur être, d'esprit. Et un ange, lui, à la manière de Dieu, n'a pas de grande réflexion. Il se pense, par contre. Et quand il voit la capacité qu'il a de comprendre et d'approcher de Dieu, parce que Dieu se laisse saisir par l'intelligence angélique dans une certaine mesure. Et c'est tellement extraordinaire, la puissance de créer d'autres êtres, que les anges admirent Dieu. Et ils s'admirent eux-mêmes. Et il en a créé des milliards de milliards, les anges. Il n'y en a pas une infinité d'anges, mais il y en a des milliards de milliards. Ça fait beaucoup de monde. Et ce sont des personnes. Ils ont tous leur personnalité. On ne peut pas parler au sens propre d'un tempérament pour les anges, mais ils ont tous leur personnalité. Ils ont tous leur jeu. Ce ne sont pas des robots. C'est impressionnant. Chaque ange a sa personnalité. Alors, parfois on représente les anges en groupe, en cœur, n'est-ce pas? Et on a l'impression qu'ils pensent tous la même chose. Ils ont chacun leur personnalité. Des milliards de milliards, je ne sais pas si on est compte. Et ils se connaissent, et ils se parlent, ils communiquent entre eux. Dieu a donné 9 natures particulières d'anges, suivant des connaissances innées à leur création. Vous avez les séraphins, les chérubins, les puissances, les dominations, les trônes, les vertus, les cieux, les archanges, les anges. Alors vous avez dit, mais pourquoi Dieu a créé de différentes connaissances dans des anges de manière innée? Bien pour qu'il y ait une certaine diversité en plus de leur personnalité. Et Dieu a créé donc ce qu'on appelle des séraphins. Les séraphins sont des anges qui ont une connaissance de Dieu plus pointue que les autres et qu'ils communiquent aux autres dans leurs relations mutuelles. Et bien, parmi ces séraphins, il y en avait un qui avait une particulière acuité d'intelligence et de volonté, au point qu'il avait comme surnom le porteur de lumière. Lucifer. Et ils ont été créés dans l'amour de Dieu, tous les anges. Mais ils n'avaient pas encore accès à une vision directe de Dieu. Une lumière divine, qui rend l'intelligence, mais on ne peut pas saisir toute la puissance de Dieu, mais par contre, on peut approcher de sa... si vous voulez, de son être en partie, quoi. Comprendre toute une partie de la beauté de Dieu, et qui est déjà extraordinaire. Vous voyez, vous pouvez admirer des fleurs sous un aspect, ou un diamant sous un aspect. Et plus vous tournez autour de cette fleur, autour de ce diamant, plus vous connaissez la beauté de cet être. Eh bien, on ne pourra jamais faire le tour de Dieu, en quelque sorte. Mais on pourra l'approcher, on peut l'approcher. Eh bien, l'épreuve des anges aurait été, suivant la tradition biblique, la décision de Dieu de créer non seulement la matière, ça les anges pouvaient Pour eux, c'est comme un nuage de poussière, hein, c'est joli. Mais la nature angélique est plus belle, hein, que le cosmos. Vous allez me dire, mais le cosmos, c'est quand même extraordinaire. Eux peuvent être à tout endroit en tant que pur esprit. Ils n'ont même pas à voyager à la vitesse de la lumière, ils n'ont pas de matière. Un ange peut être d'un point à un autre du cosmos en une pensée. C'est magnifique. Nous, on va avoir du mal. Le corps va s'arrêter assez vite. S'il y a une météorite sur le trajet, c'est... Et donc, si vous voulez, quand Dieu a créé la matière, c'était beau, c'est un beau spectacle. C'est un son et lumière pour les anges, pas plus. Enfin, ils voient quand même la fantaisie de Dieu, donc c'est un aspect de Dieu qu'ils admirent aussi. Des planètes de gaz, des étoiles qui explosent avec des noyaux différents, tout ça. Enfin, là, ils ont fait de l'astronomie gratuite. Ouais. Sauf que cette création, qui est décrite très succinctement dans la Bible, hein. Les jours en hébreu, c'est des temps, c'est pas 24 heures. Premier temps, la matière. Et la matière qui en incandescence, c'est la lumière. Il n'a pas créé que de la lumière, il a créé la source de la lumière qui est la matière incandescente. Premier temps de la création matérielle, ben la matière. Deuxième temps de la création matérielle, la séparation de cette matière. Entre ce qui est purement solide et ce qui est purement lumineux, gazeux, enfin c'est... Si vous voulez, la révélation qui a été faite à l'homme de la création, là pour le coup, des milliards d'années comme vous voulez. Puisque c'est le troisième jour, au quatrième jour, quatrième temps de la création qui voit le système solaire. Et la Terre et la Lune. Et donc, en quelques phrases, on s'intéresse uniquement à nous. Oh, Dieu a pu créer de la vie ailleurs. C'est pas contraire à la foi biblique, hein, qu'il y ait des êtres humains ou des êtres intelligents avec un corps ailleurs. Sauf que pour l'instant, c'est pas intéressant pour nous, même s'il y en a qui dépensent des milliards pour le savoir. Et donc, les temps de la création, c'est la terre ferme, l'eau, les cellules vivantes, les planctons, les méduses, les poissons, les animaux rampants, les animaux sur la terre. Et alors on dit ça, les plantes avant, on dit ça en quelques mots, pourquoi ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est égoïstement si vous voulez, c'est quand même l'histoire humaine. Dans la Bible, les prophètes passent vite, puisqu'à d'autres moments ils vont admirer la nature, il va y avoir des poèmes, des psaumes pour la beauté de la création. Mais la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, va vite à l'homme. Nous, on pourrait s'arrêter en admirant justement toutes ces cellules, toutes ces bactéries, toutes ces mitochondries, donc du cytoplasme avec une membrane, toutes ces cellules. Et le bon Dieu qui crée ça, et les anges qui observent cette diversité. Le plancton est très intéressant à étudier si vous aviez du temps. Et c'est quand même des créatures très originelles, hein, et elles sont très variées. Et vous avez des gros mammifères marins ou des poissons qui avalent ça sans distinction, avec une vulgarité incroyable, sans mettre de serviette, sans faire cuire rien. Ils filtrent l'eau et ils ne vivent que de ces cellules vivantes, qui sont protéinées et qui sont bonnes à manger. Des grands filtrages d'eau. Là. Et imaginez que notre nourriture, ça serait filtré de l'eau. Et on serait moins varié. En France, on serait un peu triste. Mais... Et voyez-vous, j'arrête là cette description, si vous voulez, de la fantaisie, l'intelligence divine. C'est fou ce qu'il a créé. Et quand certains disent que c'est par hasard, non, pitié, quoi. C'est le film de Lucie de Luc Besson, voyez. C'est les atomes qui s'accrochent, hein. Bon, c'est le philosophe Démocrite, lui, grec, et considérait que tout s'était formé par aggloméré, ça s'accroche, ça se forme, voilà. Et puis après, vous mettez les électrons bougent un peu à l'intérieur un peu vite et ça bouge. Et le vivant serait simplement l'activité des électrons. Je peux vous assurer que quand vous prenez un fil de cuivre, que vous mettez la main dessus et qu'il y a l'électricité dedans, c'est pas que le fil soit vivant, hein, mais bon, les électrons passent. Pourtant, ce fil de cuivre est mort. C'est du mouvement mort. C'est pas du mouvement autonome. C'est du mouvement d'une source de mouvement. Tandis que nous, notre mouvement, il est autonome. Nos cellules ont un mouvement autonome et le composé qu'est un corps animal ou un corps végétal est autonome. Vous avez une plante, quand vous la déracinez, qu'elle est là en l'air, elle continue à vivre. Vous avez ses racines, vous avez son tige, tout ça, et ça vit dedans. C'est un tout organisé. Et nous, vous voyez, nous avons aussi ce tout organisé. Et Dieu va créer des âmes. Alors, je vous embrouille un tout petit peu et je fasse vite. La cellule, la bactérie dans l'eau a une âme. Le chat a une âme, la fleur a une âme, le brin d'herbe a une âme, mais au sens large du terme. Il a un principe de mouvement et d'animation. Ça bouge. Mais ça bouge vraiment et de manière autonome. En soi, en philosophie, en métaphysique, on ne peut pas prouver que l'âme, le principe immatériel de mouvement qui coordonne la matière d'une bactérie, meurt ou est anéantie lorsque la bactérie bouge plus. Il pourrait y avoir un paradis des âmes des bactéries, où elles flotteraient dans l'air. De toute façon, les esprits n'ont pas de corps, donc on rencontrerait tous les brins d'herbe, n'est-ce pas? Imaginez s'il y avait toutes les âmes des moucherons, qui, chaque fois qu'un moucheron meurt, tout ça. Des fantômes de moucherons, des fantômes d'orchidées, des fantômes de... En métaphysique, on considère que les âmes, les principes de mouvement, sont anéantis. On dit qu'ils retournent à la puissance de la matière. Alors, si vous avez aimé un chat ou un chien, je suis vraiment désolé. Normalement, l'âme est anéantie. Il ne pourra pas revivre. Dieu peut très bien, dans la vie éternelle, faire un animal qui sera en tout point l'animal que vous avez eu, mais ça, on ne sait pas quels seront les détails de la vie éternelle, la fin de la vie terrestre, la résurrection des morts. Parce que la terre sera réornée, et il y aura à nouveau une beauté végétale et peut-être des animaux. Mais ça, on n'a pas d'une révélation précise, sauf qu'on sera très heureux et qu'on se retrouvera par contre entre personnes humaines après l'Apocalypse et la fin de la vie terrestre telle que nous la connaissons. La surface de la terre sera réornée par Dieu, plus belle, de manière plus belle que maintenant. Donc je suppose que ça ne sera pas une terre brûlée avec des cratères, si vous voulez. Nos yeux verront de belles choses. Sauf qu'à la fin des temps, le péché surabondera tellement que Dieu brûlera toute la surface de la terre. Et que même ceux qui auront des bunkers à 20 km ou 50 km sous terre seront cuits comme dans un micro-ondes aussi. Tout le monde mourra à ce moment-là. C'est deux fois, c'est révélé. Quand Dieu se mettra en colère contre les péchés des hommes qui ne permettront plus à suffisamment d'âmes de se sanctifier, et aux âmes innocentes de le rester. Je ne sais pas, par exemple, enseigner la pornographie en maternelle, comme ça se fait maintenant. Et ça, c'est pas bon, vraiment pas bon. Et je peux vous assurer, on m'a présenté un livre diffusé dans des écoles pour les enfants de 3 ans. Hein. Dieu va créer la matière, va créer les animaux, va créer les plantes et les anges dans tout ça. Eh bien, Dieu leur dit, je vais unir un esprit à un corps animal. Et les anges lui disent, mais c'est quand même inférieur par rapport à... Il sera comme en prison dans ce corps animal. Et comment il l'a fait? Comment il y a eu une évolution conduite des espèces, des êtres? Est-ce que Dieu a créé un corps animal autonome? Ou alors est-ce qu'il a pris toute une génération de singes dans lequel il a insufflé un esprit? Ça par contre, là pour le coup, on ne le sait pas. Donc, le pape Pie XII, face au développement scientifique moderne, disait « Réfléchissez, étudiez. » Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu ait transformé les êtres pour qu'ils soient tel singe, telle espèce, un rhinocéros ou un hippopotame, un mammouth ou un éléphant, un zèbre ou un cheval, de toute façon, Dieu intervient dans le génome. Ça ne peut pas se faire par hasard. C'est une œuvre d'intelligence. Il n'y a pas d'essai hasardeux de Madame Nature. Et alors le corps humain? Eh bien, ça peut être en effet un singe. Mais alors un singe qui était un vrai singe. Et qui, par... volonté divine du génome, aura une main qui n'est pas la main des autres primates. Parce que le pouce est opposé. Donc c'est une... Si vous voulez, vous avez la guenon qui, à un moment donné, donne naissance à un singe qui a les pouces opposés. Ah, mais c'est par l'évolution. Non. Parce que pour que l'ADN fasse un pouce opposé, il y faut la puissance divine. Autre possibilité, Dieu crée les êtres. Bon, c'est plus miraculeux, c'est plus magique. Et puis XII dit, par contre, l'être humain, il est unique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu a pris un animal et a mis un esprit dedans. C'est ce qu'on appelle le monogénisme. Il n'y a pas eu plusieurs souches d'êtres humains. Et ça, c'est le plus difficile à avaler de nos jours, mais c'est toujours l'enseignement biblique actuellement. Même les prêtres les théologiens les plus avancés, progressistes, ne peuvent pas lutter contre ça. Il y a eu un premier homme. Ah bon, c'est pas une légende, Adam? Ben non. Ben attendez, je vais demander à un théologien, il va me dire, ben non, c'est une légende, où vous avez entendu ça? À Saint-Eugène? Ben bien sûr. sauf que vous allez à Rome, vous allez à la commission biblique pontificale, vous allez à la commission théologique internationale, vous leur dites, est-ce qu'il y a un monogénisme? Est-ce qu'il y a eu un premier homme? Ils sont obligés de vous dire oui. Parce qu'il y a un premier être intelligent et responsable qui a été créé avec un corps adulte. Hein. Le pauvre. Il n'a pas été bébé. Ah, tiens, alors, personne ne me comprend. Oui. Science suffisante pour ne pas mourir, pour manger, pour ne pas s'empoisonner. Parce qu'il n'a pas l'instinct de l'animal. Il n'a de l'animal que l'instinct de survie, de l'instinct par rapport au feu, par rapport au froid, par rapport au fait d'avoir faim, mais il ne sait pas ce qu'il mange. Il le comprend. Donc Adam a un langage aussi. Il n'a pas appris un langage, il n'a pas inventé lui-même un langage. Et tel qu'il est, ce premier homme, sexué, animal, il est là et il est seul. Et c'est aussi une révélation biblique que la femme a été créée à partir de la chair d'Adam. Et ça, c'est toujours difficile de nos jours maintenant, c'est complètement abandonné, mais moi je vous le dis après. Adam est vivant, il est entre le Tigre et l'Euphrate dans le jardin d'Éden, et il est là. Et c'est l'unique être humain. Les hommes de Cro-Magnon, Néandertal, tout ça, ce sont des êtres humains ou ce sont des singes. Et s'il y a un rite funéraire, c'était des êtres humains. S'il y a de l'art, ce sont des êtres humains. Et ils descendent tous du même. Et on a le même ADN. Eh bien, voyez-vous, Adam, lui, est seul. C'est un homme qui est seul dans le jardin d'Éden, dans cette plaine. Et il dit à Dieu, je ne veux pas être seul. Là, pour le coup, nous, on est un peu humiliés. On donne notre vie à Dieu pour connaître Dieu, pour être, avoir une vie très spirituelle. Mais d'instinct, on n'est pas créé pour être seul. On n'est pas vraiment seul. On a des parents, on a des frères, des sœurs, des amis. L'homme n'est pas fait pour être seul. Alors vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi l'Église, enfin pourquoi on tolère des ermites et des solitaires? Ils ne sont pas vraiment seuls. Et d'abord, pour être ermite, il faut être très charitable. Il ne faut pas être hirsute et recevoir n'importe quel étranger qui passe près de vous hein, en lui jetant des pierres. Sinon, ce n'est pas l'Évangile. Non. Adam, lui, veut être comme les autres. Il voit les animaux par couple, par... Dans la fécondité, il voit les êtres qui sont présents dans la plaine où il est créé, et il demande une compagne, il demande, et Dieu à ce moment-là l'endort et lui prend de sa chair, de ses cellules, pour faire le corps de la femme et pour créer un esprit qu'il met dans le corps de la femme. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que l'homme est avant la femme? C'est pas le problème, à l'époque il n'y avait pas de féminisme, c'est l'associé de l'homme. Ils sont égaux, en effet. Totalement égaux, l'homme, la femme, avec lui qui est masculin et elle qui est féminine. Et c'est le premier couple. Et Dieu les marie. Waouh! Au bout de 50 minutes. Il est marié. Le mariage, c'est un homme avec un sexe d'homme au milieu des jambes et une femme avec un sexe de femme au milieu des jambes. Excusez-moi, je suis très cru. Je suis du 12e arrondissement. J'ai un grand oncle qui était sapeur-pompier. Voilà. Et c'est le premier mariage, tout simplement. Adam et Ève ont été les premiers hommes et la première femme, et ils se sont unis, non seulement physiquement, mais spirituellement, et ils se sont aimés. Et Dieu a voulu cet amour, et Dieu a voulu cette création, et qui est totalement différente par rapport aux animaux. Parce que lorsqu'on observe les animaux, on voit que le mâle et la femelle ne restent pas toujours ensemble. Ou s'ils restent ensemble pour un temps, avec polygamie, polyandrie, c'est-à-dire, par exemple les mantes religieuses ont plusieurs mâles, mais elles les mangent après l'accouplement. Pareil pour la plupart des araignées, pour certaines araignées. Les meutes vivent avec un mâle alpha, et donc tous les autres se serrent la ceinture, puisqu'il n'y a que le mâle alpha qui peut féconder toutes les femelles. L'homme est tout à fait différent, parce qu'il comprend, parce qu'il sait qui il est, parce qu'il peut observer le règne animal, parce qu'il sait qu'il est différent, parce qu'il sait qu'il peut aimer. Et Dieu nous a donné des enfants qui sont très longs à élever. Des années et des années de prévenance et d'éducation spirituelle et intellectuelle et spirituelle. Même dans les cas de famille les plus frustres et les plus terribles, il y a une éducation, il y a des conseils, il y a une manière de s'habiller, il y a une manière de manger. Il faut voir des films de série B pour imaginer l'enfant complètement maltraité, tout ça. Ça peut exister, mais c'est le péché ultime de l'homme. De détruire un enfant, ou de mettre un enfant dans un poulailler, hein, comme des personnes ont pu faire. Hein. Je ne sais pas si c'était le père ou la mère de l'enfant. Enfin, on a des horreurs, en effet. Mais bon, c'est le péché humain. Eh bien, Dieu a créé cela. Et nous sommes à l'intersection entre l'intelligence angélique, la finesse de l'être purement spirituel et l'animal. Ce qui fait que Dieu n'a aucun mépris pour l'animal. Même lorsqu'il mange et qu'il se salit le museau, et quand il lappe l'eau par terre, quand la mouche mange, n'est-ce pas, ou quand la libellule prend le nectar, il y a des choses plus ou moins jolies pour nous, mais Dieu aime cette nature. Mais nous sommes différents et nous le savons. Nous distinguons notre nourriture. Nous ne voulons pas prendre des poisons. Nous voulons, apprêter notre nourriture. Nous nous faisons des vêtements. Et nous savons que nous sommes au-dessus de nos instincts animaux, même bons et légitimes. On n'aimerait pas manger salement. On n'aimerait pas faire nos besoins en public. Ça, vous allez me dire, c'est une question d'éducation. Non. Il n'y a pas seulement l'instinct de l'animal qui a peur d'être attaqué pendant qu'il est dans la plus grande faiblesse qui soit, c'est de faire ses besoins. On a cet instinct aussi, c'est vrai. Mais aussi, on a une dignité. Nous sommes le seul animal qui n'aime pas son odeur. Et dire oui, il y en a qui aiment bien l'odeur du muscle et tout. Bon, pas au point de ne pas s'approcher à moins de 5 mètres. Hein, vous avez des clochards dans Paris qui ne se lavent jamais. Hein, et vous ne pouvez pas les approcher. Et eux sont malheureux. Oui. Eh bien, tout ça, c'est la nature humaine. Eh bien, on va faire la pause. Dieu, lorsqu'il crée Adam et Ève, il dit aux anges, « Moi, pur esprit, je vais m'unir à cette nature, je vais m'incarner, je vais vivre dans un corps animal avec une âme spirituelle humaine et je vais m'y unir pour parachever et couronner mon amour. » Et là, vous avez les anges qui disent, mais d'abord, pourquoi pas en l'un d'entre nous? Et Lucifer aura bien aimé être uni à la divinité. Et ce ver de terre, cet être si maladroit et si faillible, alors Lucifer a dit, jamais je n'accepterai ça. Je ne servirai plus Dieu. Moi, je suis bien plus intelligent et bien plus, mes pensées sont bien plus élevées que celles de Dieu. Et vous avez un ange qui lui a répondu, par rapport à la stupéfaction de tous les autres anges, c'est Michael, qui est comme Dieu. Et Michael lui a dit, mais pour qui te prends-tu? Quis ut Deus? C'est ce qu'il a dit, voyez. Et en hébreu, dans la Bible, c'est Michael, qui est comme Dieu. Comment peux-tu, prétendre juger de Dieu? Si il veut s'humilier comme ça, nous devons le comprendre et l'aimer, telle sa volonté toute puissante. Et Lucifer a décidé de haïr Dieu et de haïr la création.